Le pied de momie, Théophile Gautier. Vous savez bien que je ne m'appartiens plus, j'ai été acheté et payé. Le vieux marchand savait bien ce qu'il faisait. Il vous en veut toujours d'avoir refusé de l'épouser. C'est un tour qu'il vous a joué. L'arabe qui a forcé votre cercueil royal dans le puits souterrain de la nécropole de Thèbes était envoyé par lui. Il voulait vous empêcher d'aller à la réunion des peuples ténébreux dans les cités inférieures. Avez-vous 5 pièces d'or pour me racheter? Hélas, non. Mes pierreries, mes anneaux, mes bourses d'or et d'argent, tout m'a été volé, répondit la princesse Hermontis avec un soupir. Princesse, m'écriai-je alors, je n'ai jamais retenu injustement le pied de personne. Bien que vous n'ayez pas les 5 louis qu'il m'a coûté, je vous le rends de bonne grâce. Je serais désespéré de rendre boiteuse une aussi aimable personne que la princesse Hermontis. Je débitais ce discours sur un ton régence et troubadour qui dut surprendre la belle égyptienne. Elle tourna vers moi un regard chargé de reconnaissance et ses yeux s'illuminèrent de lueurs bleuâtres. Elle prit son pied, qui cette fois se laissa faire, comme une femme qui va mettre son brodequin, et l'ajusta à sa jambe avec beaucoup d'adresse. Cette opération terminée, elle fit 2 ou 3 pas dans la chambre, comme pour s'assurer qu'elle n'était réellement plus boiteuse. « Ah, comme mon père va être content, lui qui était si désolé de ma mutilation et qui avait, dès le jour de ma naissance, mis un peuple tout entier à l'ouvrage pour me creuser un tombeau si profond qu'il pût me conserver intact jusqu'au jour suprême où les âmes doivent être pesées dans les balances de l'Amenti. Venez avec moi chez mon père, il vous recevra bien, vous m'avez rendu mon pied. » Je trouvais cette proposition toute naturelle. J'endossais une robe de chambre à grand ramage qui me donnait un air très pharaonesque. Je chaussais à la hâte des babouches turques et je dis à la princesse Hermontis que j'étais prêt à la suivre. Nous filâmes pendant quelque temps avec la rapidité de la flèche dans un milieu fluide et grisâtre où des silhouettes à peine ébauchées passaient à droite et à gauche. Un instant, nous ne vîmes que l'eau et le ciel. Quelques minutes après, des obélisques commencèrent à pointer, des pylônes, des rampes côtoyées de sphinx se dessinèrent à l'horizon. Nous étions arrivés. La princesse me conduisit devant une montagne de granit rose, où se trouvait une ouverture étroite et basse qu'il eût été difficile de distinguer des fissures de la pierre si 2 stèles bariolées de sculptures ne l'eussent fait reconnaître. Hermontis alluma une torche et se mit à marcher devant moi. C'étaient des corridors taillés dans le roc vif. Les murs, couverts de panneaux d'hiéroglyphes et de processions allégoriques, avaient dû occuper des milliers de bras pendant des milliers d'années. Ces corridors, d'une longueur interminable, aboutissaient à des chambres carrées, au milieu desquelles étaient pratiqués des puits, où nous descendions au moyen de crampons ou d'escaliers en spirale. Ces puits nous conduisaient dans d'autres chambres, d'où partaient d'autres corridors, également bigarrés d'éperviers, de serpents roulés en cercle. Enfin, nous débouchâmes dans une salle si vaste, si énorme, si démesurée, que l'on ne pouvait en apercevoir les bornes. À perte de vue, s'étendaient des files de colonnes monstrueuses entre lesquelles tremblotaient de livides étoiles de lumière jaune. Ces points brillants révélaient des profondeurs incalculables. La princesse Hermontis me tenait toujours par la main, et saluait gracieusement les momies de sa connaissance.